Shake it, my girl.
Babies,
tell me why you do.
Tick 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 tock. 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 Tick tick tock.
Yo, what is that we do?
Tock 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 tick.
Babies.
Tock tock tick. Tock tock tick. Tock 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 tick. Tock 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 tick. Tick.
On commence quand vous voulez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un cinématoque consacré aujourd'hui au Maghreb, puisqu'on va parler de deux films qui sont tous les deux d'ailleurs des premiers longs métrages et dont l'action se situe, eh bien, l'un en Algérie et puis l'autre en Tunisie. Notre premier film, en effet, c'est Timgad, qui est tourné en Algérie, qui a été réalisé par Fabrice Benchaouche, qui sera avec nous au téléphone dans quelques instants. Le second film, c'est Eddy, tourné lui en Tunisie par Mohamed Ben Atia, qui est donc aussi un premier film. Mohamed était présent à l'ABC la semaine dernière pour présenter son film en avant-première et nous l'avions rencontré à cette occasion. Ces deux films sortent à la fin du mois. Timgad le 21 décembre, Eddy la semaine d'après, le 28. Donc ce sont deux films tournés en langue arabe qui nous donnent des images de pays peu vus sur les écrans de nos salles de cinéma françaises. Et pour toutes ces raisons, Cinématoque donne aujourd'hui la parole à leur réalisateur. Et donc avant de retrouver Fabrice Benchaouche au téléphone, qui sera lui à Blagnac la semaine prochaine, samedi, pour présenter son film. Eh bien, on va d'abord écouter la bande-annonce de Timgad juste après cette petite musique.
La première fois que j'ai entendu, c'était Pérouse. C'est une très belle chanson. Très belle.
Foutre le camp, toi tu fais le contraire.
Je suis archéologue, vous rendez pas compte ici. Timgad, c'est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Pas de gribouillage, pas de mouche, hein. Monsieur Tariq Lyoum, Tariq Lizdiyat, 4 décembre 1996. Gaz tout kif kif, il y en a un.
Il s'en est le même jour, tous.
Le même jour.
J'ai toujours rêvé d'avoir une équipe à moi. On est les meilleurs dans le coin, hein.
Simon, je suis allé taf, c'est
bien, sûr. Tu n'as pas vu le comme le championnat, on aura le Marseille.
C'est très allé à tenir comme flalé.
Bon, à rien. Gardien de rien du tout.
Minimia. C'est ça.
Tu
t'as appris à jouer comme ça, Sahabé?
Je joue au foot depuis que je suis tout petit.
Monsieur l'entraîneur, à quel honneur.
Wow. Avec ton expérience, tu viens de Marseille, les gosses t'adorent.
On met une bonne défense autour de Omar, Slimane à la récupération, Karim pour la finition.
Ça, c'est de la tactique, à dire, de la tactique.
Qu'on va y arriver.
Voilà, on a écouté la bande-annonce de Team Gad, un film un peu comme une pochette surprise. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On ne va pas raconter l'histoire, mais juste poser un peu Team Gad. C'est d'abord l'histoire d'un lieu, un site archéologique où vit, ou plutôt, on pourrait même dire survit, une petite communauté entre débrouille et l'attente de jours meilleurs. Team Gad, eh bien, c'est aussi le lieu où se trouve une équipe de foot, la Juventus de Team Gad, mais une équipe de foot qui au début du film n'a pas d'entraîneur, ce qui est quand même un peu embêtant. Tout comme il y a aussi un patrimoine mondial à Team Gad, un vrai patrimoine mondial qui est classé par l'UNESCO. Mais seulement, voilà, ce patrimoine, eh bien, il n'a personne pour le mettre en valeur, il n'a même personne pour le regarder. Et puis, dans ce lieu, Jamel débarque. C'est un jeune archéologue français qui vient, lui, pour les voir, ces ruines, et qui va se retrouver propulsé entraîneur de foot. Et ouais, c'est comme ça quand on vient de Marseille. Et le tout est une comédie qui raconte beaucoup de choses sur cette Algérie qui rêve de réconciliation. Fabrice Benchaouch, son réalisateur, est avec nous au téléphone. Bonjour.
Vous m'entendez? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, excusez-moi. Bonjour.
Mais je vous en prie, bienvenue dans Cinématoque. Voilà, Team Gad, 10 années à peu près pour que le film sorte enfin sur les écrans le 21 décembre, c'est ça?
Oui, ben, écoutez, merci de m'inviter à votre émission d'abord. Et puis oui, effectivement, il a fallu 9 ans en fait pour que le film puisse voir le jour entre... on va dire l'écriture, mais surtout le financement du film. C'est surtout le financement qui a pris vraiment beaucoup de temps, puisque le film a été écrit assez rapidement, en à peu près une année.
Ouais.
Et voilà, que le scénario qui est à l'écran est à peu près le scénario définitif. Il n'a changé qu'à la marge. Voilà.
Oui, donc vous aviez cette idée dès le départ, de ce film. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture? C'est quoi? C'est l'envie de raconter, de parler de cette ville, Team Gad, l'envie de parler de l'Algérie, de parler de football, tout à la fois. On peut revenir sur cette écriture de ce scénario?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'avais une amie qui avait vécu à Team Gad, enfant. Avant l'indépendance, son papa était instituteur, et puis par la suite, après l'indépendance, il est devenu conservateur des fouilles. Donc ils étaient français, pas du tout pieds noirs, ils étaient, je dis pieds noirs, pas.
Oui. Là,
c'était des gens qui étaient arrivés instituteurs de France au début des années 50. Et donc elle m'avait parlé de Team Gad, voilà, tout ça de manière un petit peu comme ça, pour me dire que c'était un endroit assez incroyable.
Ouais.
Et puis, des années plus tard, moi, j'avais... Il y a eu un concours de circonstances, c'est que je voulais récupérer les chaussures de sport à la rentrée scolaire, parce qu'on en rachète toujours beaucoup pour les enfants, et les nouvelles, voilà, pour les emmener dans des pays aux enfants qui n'en ont pas.
Mm-hmm.
Et j'avais écrit deux petits films publicitaires, on va dire, à caractère humanitaire. Et tout le monde trouvait ça super, tout ça, mais j'arrivais pas à les faire. Et voilà, donc Team Gad, d'un côté, cette histoire qui était lointaine dans ma tête d'une ville romaine en Algérie assez incroyable, des enfants pauvres qui ont besoin de chaussures, on va dire, et puis un peu mon histoire personnelle, puisque mon père est algérien, était, puisqu'il est décédé, mais mon père étant algérien, voilà, j'avais envie de faire une sorte de cadeau, cadeau à l'Algérie, quoi, de lui montrer qu'il y a des choses fortes, et qu'on pouvait dire des choses sur l'Algérie sans être compassionnel, ni rabâcher l'histoire des relations franco-algériennes. Voilà.
Et vous avez écrit avec Aziz Chouaki. Vous vous êtes rencontrés comment?
Alors, par la radio.
Ah, mais tiens, il se passe de bonnes choses à la radio, alors.
Oui, en fait, moi j'avais à peu près structuré une histoire avec les personnages. Et puis un jour, donc, j'étais en train d'écrire, je commençais à patiner un petit peu parce que l'histoire était inventée, les personnages étaient là, mais les situations restaient à développer. Et j'entends donc l'émission sur France Inter de Rebecca Manzoni qui dit « Ah bonjour Monsieur Aziz Chouaki, donc vous avez une pièce qui va jouer aux Amandiers, tout ça. » Et puis il commence à parler et il parle du langage de l'algérien. Et en fait, là, j'ai eu un déclic en me disant, mais c'est lui qu'il faut, parce que justement, il parle de ce mélange de langues auquel moi je tenais et auquel lui aussi tient, c'est-à-dire en algérien, ce passage du berbère, de l'arabe dialectal, du français, un mélange improbable qui fait que c'est très chantant et... Et voilà, donc on s'est rencontrés parce que je le connaissais pas, je l'ai cherché. Et puis ça aussi, c'est encore une autre histoire que je pourrais vous raconter, comment je l'ai trouvé, voilà. Et on a travaillé ensemble et je crois que je suis assez flatté parce que c'est un auteur brillant et je crois que je suis le seul avec qui il a écrit en commun.
Ah,
sinon,
oui.
il travaille seul. Voilà.
Et il y a cette envie, voilà, de faire entendre cette langue, donc du coup qu'il y a dans son théâtre et qu'il y a dans ce film. Alors on sent quand même, bien entendu, un attachement fort à tous les sujets qui sont dans le film. Donc cette ville de Timgat, effectivement, l'Algérie et le football. Vous avez cru tout de suite à ce pari là, donc du coup de réunir ce que vous racontiez. Donc au départ là, de réunir ces trois idées fortes en se disant je vais, ça va passer, les gens vont me suivre.
Oui.
Ouais, ça
a boulot. Oui, c'est-à-dire que j'y ai cru vite, oui, parce que, le film traite de football, mais de manière, c'est un vecteur pour parler d'autre chose,
ouais.
Forcément. Mais oui, j'y ai cru parce que, on sait quand on tient une histoire assez incroyable.
Ouais.
Voilà,
ouais.
C'est-à-dire que quand je racontais l'histoire autour de moi, les gens étaient captivés et me demandaient, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sait quand les gens sont captivés qu'ils attendent une suite en disant, mais, et lui, le personnage, là, il devient quoi? Ah oui, alors lui, c'est, il va. Et donc, je savais, oui, après, je n'imaginais pas, effectivement, qu'il m'aurait fallu dix années pour. 8 ans pour réunir le budget, quoi. Parce que ça reste un tout petit film en termes de budget.
Alors je pense que ça doit s'entendre dans la bande-annonce. Bien entendu, il s'agit d'une comédie et vous jouez beaucoup sur des oppositions, qui est quand même un des ressorts de la comédie. Donc on a l'instituteur face à l'imam, on a l'épicier contre on va dire un peu l'industriel ou celui qui est un peu plus réussi. L'instituteur local aussi, qui est un personnage très attachant avec face à ce savant venu de France. Et puis c'est voilà. Et alors moi je me demandais comment vous avez choisi vos acteurs qui sont juste et au bon endroit et en plus avec une équipe d'enfants l'équipe de foot qui est juste parfaite. On a envie de les suivre tout le temps. On se lasse pas de les voir à l'écran. Donc comment ça s'est passé puisque le casting est composé d'autant de comédiens algériens que de Français. Il me semble, en tout cas, les grands rôles sont distribués presque à moitié-moitié. Vous pouvez m'expliquer un peu?
En fait, si vous voulez, ça a commencé il y a très longtemps avec l'instituteur qui est interprété par Sid Ahmed Agoumi, donc qui est un comédien algérien qui a une très longue carrière au cinéma et au théâtre, qui s'est joué autant les classiques français que Shakespeare que de la comédie et des films dramatiques.
Ouais.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a lu le scénario et il a dit une chose incroyable pour un comédien, parce que monsieur d'un certain âge, même s'il fait beaucoup plus jeune.
Ouais. En tout cas, il a une vie assez
il a dit une chose incroyable, il a dit « je peux interpréter ce rôle et après je peux mourir ».
Ah oui.
Donc,
Là, vous ne pouvez pas lui refuser.
Fort.
Ouais, bien sûr.
C'est très très fort pour un comédien, c'est même assez incroyable. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup d'aléas pour le financement. Donc, des fois, au début, on était sur des castings un peu prestigieux. Et puis, au fur et à mesure que les choses se compliquent,
La réalité économique.
Je ne dis pas que le casting n'est pas prestigieux. Ce que je veux dire, c'est que quand vous cherchez financement, tout le monde vous dit mais il faut un tel parce que il draine tant de centaines de milliers de spectateurs. Voilà. Donc, les choses se font comme elles se font. Et puis, j'avais rencontré Mounir Margoum, qui jouait archéologue.
Donc, Karim, oui.
Au théâtre, puisqu'il avait joué dans plusieurs pièces de Aziz. C'est un super comédien. Mm-hmm. Moi, je l'avais vu dans Bérénice, Une virée, dans Les Amants de Loche. Vous voyez, donc, il a une palette dans Le Crachin. Donc, il a une palette extrêmement large. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et puis, après, j'ai eu des financements belges. Qui sont venus compléter le financement, enfin même pas plus que compléter, puisque ça se répartit à peu près en un tiers France, un tiers Belgique, un tiers Algérie. Donc je me suis dit, prenons des comédiens belges. Et puis là, il s'avère que la Belgique a beaucoup de comédiens d'origine marocaine. Mm-hmm. Donc en fait, il y a l'Algérie, la France et la Belgique à travers leur population maghrébine. Voilà.
Et ce que vous racontez sur sur l'anecdote là de Sid Ahmed Agoumi, je veux interpréter ce rôle. Justement, ça devançait un peu quand vous avez dit ça. J'ai pensé tout de suite à cette question que j'ai quand même en tête. C'est vous avez aussi envie de parler de l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui et puis l'Algérie aussi des événements qui se sont passés il n'y a pas si longtemps mais peut-être dont on parle assez peu qui sont les massacres perpétrés par les frères musulmans en Algérie ces décennies là enfin cette décennie en tout cas enfin plutôt de terreur votre film vient peut-être aussi combler un vide ou alors peut-être que le vide il n'existe pas, c'est pas vrai que ces films ils sont petits. Il y a peut-être des films dessus mais qu'on ne voit pas, je sais pas, il me semble pas avoir beaucoup entendu parler de ça au cinéma.
Alors vous avez assez raison parce que alors il y a des films effectivement algériens il y a pas mal de courts-métrages qui parlent de cette période-là. On n'en voit pas beaucoup. Moi, je voulais en tout cas un film qui soit détaché de l'histoire franco-algérienne en termes de guerre, de la guerre d'indépendance. C'était quelque chose qui était à part. Ce qui était important, c'était de retraduire le fait qu'il y a eu 200 000 morts, d'en parler, et je trouvais que finalement... Quand j'ai écrit le scénario, je trouvais que c'était un petit peu précurseur. Puis, quand il y a eu les printemps arabes, tout le monde m'a dit « Ouais, non, mais c'est has-been maintenant, c'est totalement has-been. On est dans une autre phase. » Et puis, en fait, l'an dernier, j'étais en plein montage quand il y a eu les attentats à Paris et à Bruxelles. Et j'ai trouvé que c'était ultra contemporain, en fait, de pouvoir parler de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la position des femmes... d'une manière générale dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays où il y a l'islam. Ouais. Le fait qu'effectivement il y a un terrorisme diffus, et des fois qui n'est même pas diffus, enfin il y a un terrorisme, une phase de terrorisme politique. Voilà, je trouve que c'est assez contemporain. Et l'Algérie a vécu tout ça, en fait, bien avant les autres pays. Pendant 10 ans, dire 200 000, c'est un peu au bas mot parce que les estimations seraient plus fortes. Mais c'est quand même, il y a peu de films qui en parlent. Et moi, je tenais à en parler, mais pas d'une manière condescendante ou pas de la condescendance. Mais je voulais éviter, on voulait avec Aziz absolument éviter tout ce qui était dans le pathos. Et je crois qu'on, de ce côté-là, on a assez réussi.
Ouais.
Voilà.
Et moi, je voulais savoir quel était votre... est-ce que vous connaissiez bien l'Algérie avant d'avoir tourné ce film ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé régulièrement en Algérie ? Est-ce que du coup, vous avez entendu cette parole d'Algériens aujourd'hui qui ont envie aussi de cette idée de la réconciliation de ce pays qui pourrait de nouveau parler du passé pour peut-être passer à autre chose justement. Et comment vous est venu cette envie justement de raconter cette histoire parce que vous avez rencontré des Algériens, parce que justement personne n'en parle.
Non, en fait, moi j'ai vécu, si vous voulez, mon père qui est algérien, ma mère qui est française. Et ont participé à la guerre d'indépendance d'Algérie.
Oui.
Voilà. Donc j'ai quand même été élevé, non pas dans un culte, mais c'est quelque chose qui était un peu récurrent dans l'histoire familiale, ma mère ayant pris fait et cause pour le FLN. Ce qui s'est passé, c'est que je trouvais qu'on avait très peu parlé, à chaque fois que j'ai appelé mon cousin, alors j'ai très peu été en Algérie, hein, j'ai été élevé en très bas âge, je suis revenu en France, j'avais 4 ans, 3 ou 4 ans si vous voulez, et j'y suis retourné que très peu, 2-3 fois maximum quand j'étais plus jeune. Donc j'ai pas de lien particulier ni de connaissance particulière. Par contre, quand j'avais mon cousin, il me disait non, mais ici il se passe rien, tout ça. Alors je comprenais pas, alors que les événements étaient assez dramatiques de ce qu'on avait nous comme retour en France. Et après la période noire, les langues ont commencé à parler, et puis il y a eu le phénomène de la grande réconciliation, ça porte un nom, le fait qu'il y a une sorte de pardon politique et gouvernemental qui a été accordé. Donc moi je me disais, tiens, c'est étrange, mais il faut parler des choses qui se sont passées, sinon on les oublie, ou sinon ça devient quelque chose d'étrange, si vous voulez, c'est comme les non-dits dans les familles,
oui, bien sûr.
Vous voyez, on porte ça pendant des années, et puis un jour quand ça éclate, c'est terrible. Et en fait, j'avais été sélectionné, alors pour dire que c'était assez, j'étais assez juste dans la sensation, c'est que j'avais été sélectionné à Dubaï pour le scénario, pour avoir une bourse, et il y avait une productrice algérienne qui m'a dit « Ah, c'est super, j'ai lu le pitch, c'est fantastique, c'est une belle histoire, ça ». Je dis « Oui, mais c'est pas qu'une histoire drôle, je dis « Il y a aussi des choses assez terribles, 200 000 morts », et là elle s'est fâchée, elle a dit « Non, mais il faut pas en parler, il faut oublier ». Et ça m'a interpellé en me disant que il fallait toucher du doigt ce genre de choses. Il faut pas les occulter, sinon ça voudrait dire qu'on occulte, je dirais une chose simple, mais alors dans ce cas-là, la participation française, pendant la guerre, la participation française de la police, d'une certaine population
en France sur
l'exode, sur l'extermination. Alors si on n'en parle pas, on arrête tout, quoi. Enfin, tout serait permis et on oublierait, mais on n'a pas cette faculté d'oubli.
Votre film, vous l'avez déjà montré ?
Oui.
Oui, en France, en Algérie.
Alors le film, il a été montré en Belgique, en France.
Ouais.
Donc en France, il sort le 21 et j'ai eu deux projections. Il a été au Festival de Montpellier où il a eu le prix du public. Et là, la salle, les deux séances que j'ai eues étaient assez pleines.
Ouais.
Et les retours, c'est justement que les gens apprécient de rire, mais d'avoir à certains moments des choses qui sont très dures, des choses dures qui sont dites.
Ouais.
Mais qu'on désamorce toujours par du rire ou de la poésie, ou voilà.
Oui, parce que du coup, vous venez samedi prochain au cinéma de Blagnac, correct, c'est déjà, apparemment, il y a un petit buzz, hein, c'est que le message est passé. Anne, qui tient donc la salle de Blagnac, me disait qu'il y avait quand même beaucoup d'appels sur le film, et puis voilà, y a vraiment une attente, quoi, autour de cette. Déjà des images d'Algérie sur un grand écran, voilà. C'est aussi simple que ça, peut-être. Hein.
Oui.
Et du coup, vous allez même venir avec des comédiens, c'est toujours le cas ?
Oui, alors moi je vais venir le 22 et je viendrai avec la petite fille, mais qui a 13 ans maintenant, qui en avait 12 ou 11 et demi même, quand on a tourné le film, et elle va venir avec moi, avec son papa, elle m'accompagne. Je suis très content qu'elle vienne parce qu'elle est formidable.
Et puis c'est la fille de l'équipe, quoi.
Ouais. C'est une gamine extraordinaire, assez brillante.
Ouais.
Et on racontera les anecdotes, quelques anecdotes, enfin les miennes. Et puis j'attends les siennes parce que c'est vrai qu'on s'est pas revus. On a un peu communiqué par Facebook, mais très peu. On s'est pas revus depuis la fin du tournage. Et puis elle m'a beaucoup donné. Elle a beaucoup apporté au film. Elle a été d'une patience infinie, mais elle a un sacré caractère.
Oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Et ça sera ma dernière question. Le film a reçu donc un soutien du gouvernement algérien. Dans le film, on les gratine quand même, les autorités, dès le début, en disant que les gens du village disent qu'ils ont été lâchés par les autorités. Ça a posé un problème, ça ? De critiquer les autorités et de recevoir un peu d'argent. Enfin, est-ce qu'on vous a mis une pression pour édulcorer le scénario ?
Alors écoutez, je dois avouer qu'il n'y en a eu aucune. Voilà, et je le dis parce que ça me surprend et ça m'a surpris moi-même, mais il faut le dire, je pense que des fois il y a des choses qui sont édulcorées. En ce qui me concerne, le scénario avait été lu il y a plusieurs années par la ministre, ce qui était une femme à l'époque de la culture, qui n'avait émis aucune objection et qui nous avait accordé des autorisations de repérage sur les ruines, sur les sites d'Algérie, donc aussi les routes, les écoles, enfin si vous voulez, c'était quand même important, quoi. On allait dans les écoles, sur les terrains de foot, dans les villes, on avait accès... Donc j'avais rien, et puis là pour la fin, enfin pour la partie quand on a réussi à faire le film, le gouvernement algérien a reçu le scénario qui était écrit en français avec une traduction entière en arabe, sachant que les membres de la commission lisent le scénario en français. Je n'ai pas eu une seule remarque, je n'ai pas eu une seule interdiction de tournage. Juste un mais très très léger qui est un petit problème par rapport aux ruines, donc que je peux comprendre, si vous voulez, par rapport
à la préservation, enfin à la conservation,
oui, mais sinon l'ensemble des dialogues que vous avez dans le film, et quand vous dites des fois ça s'envoie un petit peu, je dirais des scuds, c'est pas du tout léger. Jamais il y a eu une seule intervention concernant, on va dire, toute la partie, tout ce qui se dit en termes de politique ou de religion. Bon. À aucun moment. Après, je ne vous dis pas que ce film ne sera peut-être pas censuré si jamais il devait passer à la télévision, par exemple. Ça, je n'en sais rien.
Ouais.
Mais en tout cas, on m'a laissé... il y a eu une totale liberté par rapport à ça. Et je vous dis, vu de l'extérieur et avec mon côté quand même assez français, j'étais un petit peu surpris, voilà.
Ah ouais, donc c'est bien de le noter, et du coup c'est une très belle coproduction quand même, France, Belgique, Algérie. Je rappelle donc que vous présentez le film samedi prochain au cinéma de Blagnac. Je pense que la séance doit être à 21h, je crois que c'est les horaires habituels, avec une rencontre avec vous-même et donc une des actrices du film. Je rappelle aussi que Tim Gad sort sur les écrans le 21 décembre, il faut y aller, et surtout il faut y aller dès le premier jour, c'est très important, la journée des mercredis, je rappelle bien aux auditeurs, et je vous remercie beaucoup Fabrice, et je vous souhaite un bon séjour la semaine prochaine sur nos terres toulousaines. Merci d'avoir accepté cette invitation.
C'est moi qui vous remercie, c'est très agréable de pouvoir parler des choses qu'on fait.
Ouais.
Merci de m'avoir invité.
Merci. Au revoir.
Bonne fin de journée.
Merci. Voilà, et on poursuit avant de retrouver Mohamed Ben Attia, qui va nous parler un peu de ce film Eddy. On va écouter un petit peu de musique. un court extrait de chant soufi qui nous vient de Tunisie pour annoncer la seconde partie de cette émission où on va parler de Hedi. Hedi est un premier long métrage également donc, du réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia. Lui sort sur les écrans français le 28 décembre, mais il a déjà été joué dans beaucoup de festivals, dont le festival de Berlin. C'était le premier film tunisien en lice pour l'Ours d'Or depuis 20 ans. Il repart du Festival de Berlin d'ailleurs avec deux prix, l'Ours d'Argent du meilleur acteur pour Majd Mastoura, qui est donc, vous allez voir le personnage qui interprète Hedi, et le prix du meilleur premier film donc pour son réalisateur. Kairouan, en Tunisie, peu après le printemps arabe, Hedi est un jeune homme sage et réservé, passionné de dessin. Il travaille sans enthousiasme comme commercial, bien que son pays soit en pleine mutation. Il reste, lui, soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l'envoie à Ahmadiyya, une ville côtière, à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim. Elle est animatrice dans un hôtel local. C'est une femme indépendante dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main. On a rencontré son réalisateur, donc Mohamed Ben Attia, au cinéma ABC, où il était venu présenter le film en avant-première. Cette interview a été menée de concert avec Radio Occitania. Juste avant de quitter Mohamed Ben Attia, l'abandonnement.
هي دي هبت النوار وين انفيسه ما خلطتش وين عيط البنت النوار ايش انت من هنا وسيله اقرب لي زيدا اسمع البنات وينهم البنات ايش من قبل نغمه واطيه كما قلت لكم هادي
وانت عجبتك
عجبتني
كهو
كهو
ما زبدة كل يوم نافيت مهدية قروات انتو كانت تقدمها خير من تونس
شنو هالمشي وجاي الكل في بالك غدوة رشق وبعد غدوة عرسك
في بالي
اي بيه يقعد بيت
ما نجمش نخدم في مهدية يعني منيش قاعد نلعب رأي. قاعد نخدم ما تفهموش يا خير شنو
اي بيه اي بيه رأي يدروح يجي تشوف عنده الحق العرس عرس وسارية ساريت من ذكاها
T'es toi, vous êtes là presque jamais en de fait d'un.
Moi, j'avais juste une première question qui était un petit peu de nous raconter la vie de ce film depuis qu'il a été présenté et reçu donc ses prix assez prestigieux au Festival de Berlin. Ça fait pas tout à fait
presque un an. Oui, pas loin. En février, ça fera un an. En fait, ce qui s'est passé, c'est on a essayé d'enchaîner dans la suite la sortie en Tunisie. Donc, il est sorti en mars. Il est resté quasiment 2 mois, voire plus. On a fait une grande tournée pour essayer de rencontrer tous les publics, de tous les gouvernorats. Ensuite, donc, on a continué avec pas mal de festivals. En France, on a eu la chance aussi d'avoir quelques prix, Bordeaux, Bastia, Amiens dernièrement. Et puis voilà, et la sortie française, on est là pour la promouvoir. Et le film sortira le 28 décembre, donc. Et c'est, je crois, parmi les rares fois où un film, en tout cas tunisien, sort un peu partout avant vous. Parce qu'il est sorti en Belgique, aux Pays-Bas, dans pas mal de pays. Mais c'est le calendrier qui a fait ça. C'est le distributeur qui pense que c'est la date qui convient à ce film.
J'ai beaucoup aimé votre film. Il me semble ancré dans la réalité de la Tunisie aujourd'hui, même si... je ne m'attendais pas à autant d'autorité de la part de la mère de Hedi. Mais le père étant décédé, c'est peut-être elle qui a pris justement la vie de la famille en main, et donc qui a pris toute la place et qui du coup même surprotège, voire étouffe le fils cadet. Alors qu'avez-vous voulu montrer à travers ces deux personnages?
Les deux, c'est-à-dire la mère et Eddie, c'est ça? Bah, déjà, une première lecture d'une histoire toute simple, même parfois, c'est pas qu'on m'a reproché, mais on revendique le côté banal et simple. C'est l'histoire de ce type qui est partagé entre deux choix, entre deux amours. Donc là, la mère intervient comme pas mal de mères, parce que c'est pas un cas isolé, malheureusement, chez nous. Elle est vraiment, parfois, elles arrivent à être carrément castatrices. Et pas uniquement en tant que mère, elle peut l'être aussi en tant qu'épouse. En ce moment, on voit que la femme contrôle pas mal de choses et que finalement, je crois que les obstacles depuis le départ, dans certaines sociétés arabo-musulmanes, a l'a poussé quand même à s'affirmer, alors que l'homme a été pas laissé pour compte, mais en tout cas, il vit dans un esprit de lassitude, d'ennui. Donc ça, c'est une des idées du film. Maintenant, il y a une petite... je ne sais pas pourquoi je dis petite. Il y a un parallèle, une allégorie entre cette histoire et l'histoire du pays. Et la mère, du coup, pourrait symboliser une certaine oppression, un certain contrôle dans lequel on vivait sous le régime de Ben Ali. Donc là, c'est une autre paire de manches, puisque ça parle en même temps de ce qu'on a vécu. Mais par contre, j'ai pas voulu, parce que j'ai pas ni les outils ni la distance nécessaire pour parler de la révolution d'une façon directe et frontale. Donc pour moi, c'était le plus important, c'est de rester toujours fidèle à cette histoire et essayer en tout cas de faire passer une émotion avant de faire passer tout ce genre d'idées plus politiques liées à ce contexte.
J'ai lu dans des interviews que vous avez données auparavant que en fait le point de départ de ce scénario, de cette écriture, c'est l'envie de filmer une histoire d'amour, même peut-être qu'on pourrait dire un peu plus une histoire d'émancipation d'un homme et qui s'émancipe par l'amour. C'est bien ça qui vous a animé?
Oui. Et pour dire la vérité, parce que la question m'a été posée beaucoup de fois. Au départ, j'essayais de paraître poli et de chercher quand même à meubler, et donc je ne dis pas que je mentais ou j'exagérais, c'était forcément le cas, mais pour être vraiment honnête et sincère, je ne me rappelle pas comment est né le projet depuis le départ. C'est peut-être le cumul de pas mal de détails, cette envie entre autres de raconter l'histoire d'amour, le fait aussi que je connais très bien cet univers de commercial puisque j'ai travaillé pendant 12 ans dans une autre concession d'automobile. Et c'est l'accumulation de plein de petites choses qui a probablement, je suis pas sûr de ça, mais c'est peut-être ça qui a fait naître l'histoire de Eddie.
Alors, ma consoeur a parti poser la question, mais à la fois, à cause et grâce à son métier, justement, Eddie est obligé de se déplacer de ville en ville, et c'est là où il va rencontrer l'amour, le vrai et non celui qui était déjà tracé par son histoire, voire par sa famille. Il va rencontrer une femme qui semble libérée par rapport à sa promise, mais au fond, est-ce vraiment le cas?
Est-ce qu'elle est libérée? C'est pas que c'est une bonne question, mais c'est intéressant parce que pas mal de gens ont essayé de réduire déjà le profil des femmes à ces deux archétypes et on n'a pas arrêté de les opposer. Mais si on regarde de plus près, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'elles ont quand même des choses en commun. Et comme vous dites, Lim a beau avoir cet esprit de la femme libre qui s'assume, qui n'a aucun problème avec sa féminité, sa sexualité et ses principes de vie, on voit aussi qu'elle rame, elle a aussi une faiblesse, et c'est tout à fait humain. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes ou de femmes qui arrivent aujourd'hui à être totalement sûrs de leur choix et totalement sûrs de leurs convictions. Donc voilà, c'est entre autres pour ça que lui... Mais ça, il ne faut pas le dire, peut-être que parce que sinon on va dévoiler un peu la fin. Ce que je voulais raconter à travers tous ces personnages, c'est qu'il n'y a pas quelque chose en dehors du manichéisme auquel on doit échapper. Il y a aussi le fait qu'il y a des choses du domaine plus du ressenti que de l'explication. C'est-à-dire que quand on est un peu confronté à une prise de décision comme lui dans le film, je ne crois pas qu'on arrive à être aussi pragmatique pour dire voilà, ça c'est oui, ça c'est non, et c'est donc pour ça que je vais prendre cette décision et non pas l'autre. C'est beaucoup plus flou, et c'est dans ce brouillard-là que lui, il arrive à se décider. J'espère que je n'ai pas orienté... voilà.
Alors, Eddie est habité d'une sorte de nonchalance, un peu de, parfois on peut penser à du détachement. En tout cas, il n'est pas dans les rails, il ne correspond pas du tout au stéréotype qu'on peut avoir peut-être sur un jeune homme tunisien. Il est, en tout cas, il n'est pas dans les rails dans lesquels veut le mettre sa famille. Mm-hmm. Il est en décalage et en même temps... il y a une sorte de confiance qui se dégage de ce personnage. On se dit il n'est pas perdu et finalement petit à petit il va aller vers ce vers quoi il tend, mais à son rythme, tout doucement. Et c'est une révolution en fait douce qu'il est en train de vivre, même si elle est violente. Et j'ai lu que son prénom veut dire douceur.
Ça veut dire plus calme. Et c'était frustrant parce que le titre en tunisien arrivait à traduire la double lecture du film, parce que en tunisien c'est Nhabek Hedi. Et Nhabek, ça veut dire je t'aime, mais en même temps ça voulait aussi dire je veux que tu sois. Donc ça devient en même temps je veux que tu sois calme. Ça rappelle un petit peu l'idée de ce conformisme et l'idée d'un modèle qu'on essaye de nous inculquer. Mais malheureusement, on n'a rien trouvé de similaire. Et bon, le distributeur a fini par choisir Vent Liberté. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut.
Ça perd un peu, ouais.
Non, mais le risque, c'est que ça... C'est pas que ça le réduise. Moi, ma crainte... Je revendique, bien sûr, le contexte politique. Et ça me fait plaisir que pas mal de spectateurs disent que c'est un film où on parle pas de révolution, mais qui est, depuis le début jusqu'à la fin, qui parle de cette révolution, mais d'une autre façon. Et ça me fait plaisir. Ma seule crainte, maintenant on est en pleine période de promotion du film, et Vent de Liberté, comment dire, j'ai peur que dans ce climat un peu morose, effraie les gens et qu'ils finissent par se dire, ah non, un énième film sur les révolutions du Maghreb, c'est bon, là j'ai donné, on va pas encore s'embarquer là-dedans. Alors que le film, j'espère, il s'inscrit pas dans cette logique-là. Je garde toujours en esprit l'envie de faire passer une émotion, que ça soit déjà une histoire, déjà, c'est pas mal, qu'il y ait une narration et que l'émotion s'en dégage de ce film, qu'il arrive à toucher les gens. Bien sûr, après, ça serait bien qu'il perçoive tout l'envers du décor à travers cette histoire d'amour. Mais j'aurais aimé qu'on retienne plus au départ, pour encourager un petit peu les gens et ne pas qu'ils le prennent de façon différente, qu'on en parle plus de cette histoire de choix, l'histoire de Hedi, avant que ça soit l'histoire du pays.
Et d'ailleurs, il y a des moments comme ça où vous filmez juste Hedi, et sans forcément raconter justement l'image qui va servir à l'affiche du film.
Oui.
Très très beau moment comme ça où Hedi est assis sur un canapé. Il y a une autre image où il descend de la voiture et puis juste avant la fin. Il va sortir de la voiture et puis il va se poser dans son paysage familier comme ça, enfin dans son pays, dans son paysage, pour réfléchir. Et on sent que la caméra, elle a juste une envie de le faire exister.
Plus proche de ce personnage, oui. D'ailleurs, il y avait 2-3 séquences en plus écrites dans le scénario, parmi les rares qui parlaient pas d'autre chose, mais qui abandonnaient à un moment donné le personnage. Pour détailler des petites autres histoires. Et on s'en doutait que ça n'allait pas fonctionner. Et heureusement qu'on ne les a pas tournées, parce que depuis le départ, c'était le parti pris de coller à ce personnage.
Alors, justement, la révolution du printemps arabe a-t-elle réellement permis aux Tunisiennes et aux Tunisiens d'acquérir plus de liberté et d'afficher leur amour au grand jour?
Ah, bon. Déjà, il y a deux volets dans votre question. Parce que la liberté d'expression, ça, c'est un acquis. Et j'espère qu'on n'aura plus à en parler. Depuis 6 ans, on baigne dans une totale liberté d'expression. Ça part dans tous les sens et c'est très, très bien. Parce qu'on parle vraiment de tout, il n'y a aucun tabou. Maintenant, est-ce que ça nous permet de parler plus d'amour? Et j'avoue que c'est la première fois qu'on me pose ces questions, que je trouve importantes. Parce que, mis à part... la liberté d'expression, il y a aussi cette pudeur et ces problèmes de mœurs et de mentalité qui, malheureusement, puisqu'on le voit, mettra plus de temps à faire sa révolution. Donc, du coup, ça, c'est une autre paire de manches. Tout ce qui touche à l'intime et tout ce qui... Moi, personnellement, c'est bête comme tout, mais j'ai vraiment du mal à dire n'habek à ma femme ou à mes proches ou à ma mère. Et c'est entre autres pour ça que j'ai insisté à le mettre au moins dans le titre. Mais c'est parce que on a été élevé dans un environnement où, comment dire, mis à part la pudeur, c'est limite, c'était vieux jeu ou ringard ou trop féminin, trop, en tout cas, ça remettait en question un petit peu même notre virilité d'être sentimental. Donc, mais il y a des choses quand même qui nous prouvent maintenant qu'il y a vraiment une évolution, et c'est forcément par les jeunes que ça provient. Et il y a une mutation à ce niveau-là, mais c'est pas encore gagné. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire.
Donc, au niveau du, un très bon casting au niveau du choix des comédiens. D'ailleurs, celui qui joue Eddie a donc obtenu l'ours d'argent. Alors, ça veut dire, quand vous avez fait passer un casting, il y a une très bonne comédienne aussi, ça s'est fait comment, au feeling? Vous avez ressenti au départ, vous êtes dit, ouais, c'est la bonne, c'est le bon, ou c'est après,
En fait, les réflexions? Oui, c'était pas du tout gagné, puisque bêtement, j'avais en tête une autre idée de ce que peut être Eddie, sur le plan physique. Et quand je l'ai vu, lui, il a lu l'annonce sur Facebook, donc il s'est ramené au bureau. Donc par politesse, je lui ai parlé, on a discuté. Et puis petit à petit, il m'a convaincu que finalement, il pouvait ramener une autre richesse. Et que bêtement, c'était une fausse bonne idée que d'aller dans le sens auquel je tenais, à savoir le... Parce que l'idée de départ de ce Eddie, c'est de parler de Monsieur Tout-le-Monde. Et bêtement, j'allais trop dans ce sens. Et lui, par contre, il ramenait une autre dimension, puisqu'il contredisait un petit peu les stéréotypes, comme vous disiez tout à l'heure. Et finalement, c'est bien, parce que c'est pas un côté attendu, c'est pas dans cette facilité-là. Donc lui, il a en même temps un aspect juvénile, enfantin, très naïf, parfois. Et il est chauve. Donc il y a pas mal de choses qui se passent dans son physique, et que j'ai trouvé très intéressant. Maintenant, Maj, dans la vie, il est diamétralement opposé du personnage. Il est exubérant, il adore la poésie, la danse, il parle très haut avec les mains. Donc le gros du défi était de répéter avant sa gestuelle, et on a beaucoup travaillé là-dessus dans l'hôtel et dans les autres lieux du film. Et je crois que, tout comme pour moi et pour lui, c'était la partie la plus dure pour les répétitions. Parce qu'une fois qu'on avait défini un peu la démarche et le regard, les autres répétitions avec les autres comédiens étaient beaucoup plus simples, parce que ça rentrait beaucoup plus facilement. Il était déjà, à travers donc ces petites choses, il était déjà dans le personnage. On voyait qu'il était déjà dans cette incarnation. Donc tout le reste a suivi facilement. Facilement, j'exagère, mais pas difficilement.
Et je voulais revenir aussi sur cette idée donc de l'émancipation et de la libération des corps et des esprits. Il compose un personnage qui fait en plus évoluer pendant le film, hein, puisqu'il y a quand même une scène comme ça de transe où il va libérer quelque chose. Vous pouvez me raconter le contexte de cette fête à laquelle ils assistent? Qu'est-ce qui s'y passe?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule séquence du film qui n'a pas été préparée et répétée. Et c'était voulu. Heureusement, la production rechignait au départ parce qu'elle avait peur que ça déborde, puisqu'il y avait pas mal de figurants. Et moi, je voulais ne pas faire un casting de figurants. Et l'idée, c'était d'aller choisir une famille, un lieu, et leur demander d'organiser tout simplement le Hezb, parce que ça s'appelle Hezb, et que nous, on sera là juste pour filmer. Et ça nous a vraiment émus. Dès le départ, on a trouvé que c'était un moment assez particulier qui allait se faire dans le film. Et mis à part l'émotion, il y avait tout ce jeu de se laisser surprendre par la réalité elle-même. Parce qu'il y avait des journalistes qui me disaient « Vous vouliez dire, à travers ce mélange entre femmes voilées, non voilées, de mixture, de... » Alors que pas du tout. Justement, l'idée, c'était d'aller et de se laisser guider par le hasard des choses. Ce sont eux qui se sont ramenés, donc on n'a pas fait les choses d'une façon préméditée pour mettre un nombre de voilés ou pas du tout. On s'est laissé aller à ce hasard. Et d'autres personnes ont été surprises parce qu'ils pensaient que c'était trafiqué et que ce genre de fête ne se passait pas comme ça, qu'ils ne pouvaient pas danser femmes et hommes dans un même lieu, alors que non, la preuve, puisque ils l'ont bien fait par eux-mêmes. Personne ne les a demandé quoi que ce soit. Donc voilà, c'était un moment assez sympathique dans le film, pour nous, pour nos souvenirs à nous.
Et c'est une fête de quoi de...
C'est pas une fête religieuse, non. Il y a toujours dans ce genre de manifestation un passé, ça provient de ça, de soufi, un peu de quelque chose de religieux. Mais maintenant, tel qu'ils le vivent, c'est vraiment la fête. C'est la transe, c'est le défoulement, c'est la joie de vivre sans aucune pensée ou quelque chose de religieux qui serait là pour en parler ou pour le vivre. Non, ça, c'est l'amusement, le côté ludique avant tout le reste.
Votre acteur, celui qui tient le rôle titre, a déclaré récemment: je voudrais dire au monde entier, venez en Tunisie, venez dans mon pays, nous sommes des gens qui aimons la vie, nous sommes accueillants. En venant, vous soutenez le peuple tunisien dans sa lutte pour la liberté, vous combattez le terrorisme avec nous, partagez-vous son point de vue.
Il dit beaucoup de
et pourquoi même. D'ailleurs, dans votre film, quand même, nous percevons le fait que, justement, l'État tunisien a perdu des touristes.
Ah non, ça c'est un fait. Ça, c'est... Il n'y a aucun doute là-dedans, puisque même le palace dans lequel on a filmé, on a tourné, on n'a pas essayé ni d'en rajouter, ni d'en diminuer pour exagérer ou enjoliver les choses. C'était la pure réalité. Et il y avait pas mal de séquences, des petits détails qui nous ont été inspirés pendant les répétitions. Comme par exemple les chefs de cuisine qui sortent et qui dînent derrière une poutre avec les touristes. Donc ce côté pathétique était vraiment vécu par tout le monde avant le tournage. Bien sûr que je partage ce qu'il dit. C'est vrai que maintenant qu'on l'entend, il y a toujours une petite dimension naïve. Venez combattre le terrorisme avec nous. Bon. Moi, ce que je dis, c'est que autant je peux comprendre qu'un Français ou un Italien puisse avoir peur, parce qu'on oublie, encore une fois, le côté vraiment individuel de la chose. C'est-à-dire le type qui épargne pour permettre à ses enfants une semaine à la plage, il va forcément se poser des questions de risque ou de... Mais ce qui est malheureux, mais c'est une réalité, il n'y a plus aucun endroit maintenant dans le monde où on peut être en sécurité. Le principe même de ces attentats, c'est de taper là où on ne s'y attend pas. Donc, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais en tout cas, si vous allez au Monoprix ou vous faites les courses pour Noël, c'est toujours la même exposition de risque, je suis désolé de le dire. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui Je n'arrive pas à faire le porte-parole d'une cause d'être bienveillant envers la Tunisie. J'ai toujours vécu en Tunisie et je ne peux pas assimiler ma vie en dehors de Tunis. Si c'est ça, être patriotique, tant mieux. J'ai juste des problèmes avec des mots comme responsabilité envers un pays, le patriotisme. Moi, je m'y sens chez moi, donc forcément, j'adore mon pays. Mais ce que je dis, c'est que c'est difficile. Et je ne pense pas qu'on puisse être aussi simpliste que des choses auxquelles on peut s'y attendre, soit dans l'actualité, soit... Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, je crois. Et que même pour nous, pour travailler le tourisme, il faut que nous-mêmes, on remet en question la façon de le promouvoir. Parce que même sous Ben Ali, peut-être qu'on a commis pas mal d'erreurs. Moi, ce qui me frustre encore plus, c'est qu'on réduise le tourisme aujourd'hui en Tunisie à un tourisme de masse ou un tourisme cheap où on vous parachute dans un hôtel ou un club all-inclusive où ça s'arrête là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très différentes. C'est un tout petit pays, mais en même temps, il y a le Sahara, les plages, il y a toute une partie qui se ressemble à la Suisse avec des chalets où il neige tous les ans, ça, personne ne le sait. Donc c'est la vision de ce qu'on peut faire pour ramener le coûte que coûte de l'argent rapidement sans bâtir une autre façon de vendre le pays.
Qui serait peut-être du tourisme équitable quand même.
Équitable déjà, un tourisme culturel, un tourisme un peu plus historique, un tourisme, il y a de plus en plus de maisons d'hôtes, du tourisme alternatif. Il y a pas mal de choses qui se font. Il ne faut pas juste garder cette étiquette que le tourisme en Tunisie, c'est Gerba et Hammamet et Sousse. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée, en tout cas, pour se diversifier. Là, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de Russes qui viennent nous voir. C'est une bonne chose, forcément, parce qu'on était vraiment un peu mal depuis quelque temps. Et j'espère que ça va, ça va être bien, tant que pour l'aspect économique, parce que c'est vital, tant que pour cet aspect de changer un peu notre perception du tourisme en Tunisie.
Quand vous parlez, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de... Vous avez plus d'un point commun avec Eddy. Vous parliez du fait que vous avez été concessionnaire.
Je parle un peu plus que lui.
Mais sur cet attachement aussi au pays, donc on en dira un peu plus non plus. Et puis sur... c'est un artiste, Eddy, dans le film, même si c'est pas de ça dont il vit, même s'il en parle assez peu et qu'il montre une seule fois ses planches... alors moi, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a donné le goût du cinéma, l'envie de faire du cinéma et quelles sont vos références, en sachant que dans le générique du film, on voit qu'il y a quand même un coproducteur assez célèbre qui sont les frères Dardenne. Est-ce qu'il y a vous sentez une filiation ou pas du tout? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Qui sont vos références?
Déjà, depuis les années lycée, j'adore regarder les films, j'adore lire et écrire. Là, c'est un fait, mais malheureusement, autant j'avais des parents beaucoup plus cool que les parents que la mère de Heidi dans le film, autant je vivais un peu dans le même environnement. C'est-à-dire que je m'autorisais pas à pouvoir rêver et me voir faire du cinéma. Et surtout, si on a le malheur d'être plus ou moins bon en études et d'avoir un bac avec mention, là, c'est tout tracé. Nous-mêmes, c'est beaucoup plus de la paresse qu'une oppression permanente de la part des parents. Donc, j'ai pas eu assez de courage pour directement m'affirmer après le lycée. J'ai fait l'IHEC, les études commerciales, finances internationales, encore des choses atroces. Et puis après, j'ai rencontré très vite de la bouchouche à travers un atelier d'écriture. Là aussi, j'ai fait la rencontre de Jacques Fesky, qui compte beaucoup, puisqu'il m'a aidé, il m'a surtout motivé, il m'a donné confiance. Parce que le problème dans ce métier, c'est que quand on vient de nulle part, sans études, sans expérience, entraîne, et jusqu'à aujourd'hui, un complexe de légitimité de ne pas se sentir appartenir à cette famille, si famille y a en tout cas. Donc ça, c'est par rapport au cursus. Les 5 courts métrages que j'ai réalisés ont été réalisés pendant mes années, j'allais dire la concession en question. Donc je cumulais les congés pour pouvoir faire les courts. Et par contre, j'ai démissionné il y a maintenant 5 ans parce que ça pouvait plus aller comme ça et que entre autres il y avait la réalisation de Heidi qui prenait forme, qui se concrétisait. Par rapport aux frères Dardenne, donc c'est encore de la bouchouche à la productrice qui les connaît. Donc elle m'a épargné tout ce volet parce que je pensais pas, elle m'a jamais demandé ou préparé en disant voilà je vais leur envoyer peut-être un jour elle m'appelle, me dit voilà de but en blanc ils vont faire ça et ça et ça. Bien entendu moi ça je suis un peu choqué parce que je m'imaginais ou je me préparais à tout sauf à ça. Donc on fait pas mal de réunions par Skype pendant lesquels j'essaye quand même de garder mon froid, de ne pas paraître hystérique ou quoi que ce soit, mais voilà, entre collègues, genre. Et puis voilà, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé, parce que déjà, ils t'apportent beaucoup de confiance, de motivation, parce que tu vois qu'il y a des gens quand même, des pointures, qui peuvent croire en ton travail, donc ça, c'est pas anodin. Bien sûr, c'est pas que je me sens proche de leur film, je dois être honnête, j'ai regardé tous leurs films. C'est pas parce qu'ils se sont des coproducteurs, mais parce que j'adore regarder en tout cas tous les films de tous les cinémas. Et j'ai beaucoup aimé certains, moins d'autres. Maintenant, est-ce que je peux nommer un ou deux réalisateurs? J'ai tout le temps cherché parce qu'on m'a souvent posé cette question, mais j'ai préféré toujours être honnête et dire que j'ai pas vraiment quelqu'un que je suis où je reste toujours fidèle et que je suis toujours béat devant leur film. C'est toujours des films de réalisateurs que, par exemple, Regarde les hommes tombés m'a beaucoup marqué, vraiment beaucoup à l'époque. Et puis les derniers films, un peu moins. Ça la fout mal parce que je vais paraître comme, mais c'est je peux pas m'empêcher, c'est la vérité. Eric Zanka, par exemple, pour La vie rêvée des anges, pareil, c'était très émouvant quand j'avais vu le film. Et puis après, j'ai vu quoi, Julia ou deux autres films. Et par contre, j'ai entendu qu'il préparait un autre film. Donc voilà, c'est plus des films que des réalisateurs que je serai là tout le temps à voir et voilà.
Je précise la question. Moi, votre film, je l'ai vu il y a un petit peu de temps, projection publique à Auch. L'actrice était présente.
Ah, oui.
C'était un débat très intéressant, pas forcément par rapport à elle. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a complètement... on allait sur le film. Il y a eu assez peu de questions sur ce qu'il aurait pu être, ce qu'on aurait pu en attendre, étant donné le contexte révolutionnaire. On est allé vraiment au cœur des personnages. Et il y a un nom qui est sorti dans la salle, et je voulais vous le soumettre, Fatih Akin.
Oui.
Il y a plusieurs personnes qui ont fait un parallèle qui était plutôt élogieux. Et c'est pas n'importe quel film, c'est Contre les murs. Et on était quelques-uns, quelques-unes dans la salle à avoir été très touchés par ça et avoir, comme s'il y avait une espèce de faille spatio-temporelle, on était resté sur ça et un nouveau film qui nous ouvrait ça. C'est un film que vous avez vu.
Oui, j'ai vu tous les films de Fatih Akin. Ben tout ça me fait énormément plaisir, mais j'arrive pas à assimiler tout ça parce que comme c'est mon premier long et j'ai comme je disais tout à l'heure toujours ce complexe de légitimité que je traîne, parfois je me vois beaucoup plus spectateur. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à assimiler ce que certains disent. Donc ça, mais c'est clair que ça me fait énormément plaisir.
On a une dernière question, c'est ça? Peut-être on peut vous demander le futur, là, vos projets futurs?
Je viens de finir, il n'y a même pas une semaine, un nouveau scénario. Donc là, j'entame la j'ai donné à lire et on attend.
ce sera un long métrage.
Ça sera un long dans le même esprit. Oui, dans le même esprit. Aussi ennuyeux et simple que d'ailleurs.
Et tourné aussi en Tunisie.
Oui, avec probablement Istanbul, probablement. Avec comme quoi.
Voilà, ainsi se termine cette émission avec
merci à vous.
Cette interview
merci
de vous. Mohamed Benatia. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Fabrice Benchaouche qui viendra à Blagnac samedi prochain pour présenter son film Team Gad. La séance aura lieu à 21h. Nous serons donc le samedi 17 décembre. Fabrice sera accompagné par la jeune actrice de son film, l'une des enfants de l'équipe de foot de la Juventus de Team Gad. Nous sommes partis à la rencontre de Mohamed Benatia, donc c'était à l'ABC. Je remercie chaleureusement l'équipe de l'ABC de nous avoir proposé cette rencontre. Le film est dit qui sort le 28 décembre, mais bien entendu, nous en reparlerons pour que vous n'oubliez pas ces deux rendez-vous. Voilà, il est donc l'heure, même un peu, on a dépassé le temps. Mais on s'en fiche, on est comme ça à Cinématoc. On va se quitter en musique. Vous pouvez rester à l'écoute de Canal Sud 92.2 ou partir au cinéma. Voilà, bonne idée. Ouais. Mmh.